Roberto, vamos Roberto, la va a poner Roberto, la pone Roberto, ya está Zinedine, Zinedine en gatilla, chuta.
Avait promis un classique du football européen, ben, il a tenu ses promesses et quand on voit le score à l'issue de ce match aller, 2-2 à l'Allianz Arena entre le Bayern Munich et le Real Madrid, et ben on est amené à se dire que tout va se jouer au Santiago Bernabéu lors du match retour dans 8 jours. On va revenir sur cette rencontre, sur ce match aller où on va essayer de tirer les enseignements de ce que l'on a vu sur le terrain. Et pour pouvoir se projeter sur ce match retour avec le dispositif européen que vous connaissez, avec le retour de Johan et avec Damaz de Team Duncast, de Forever, que vous connaissez bien chez Sport Content. Messieurs, bonsoir. Il est 23h44 quand on commence cet enregistrement.
Voilà. Ah. Bonsoir, bonsoir. Esprimadilista.
Ah ben, j'allais dire oui. Bon, bonsoir à tous nos, bonsoir, bonjour à ceux qui vont nous écouter à tous nos amis auditeurs du supporters du Real Madrid. J'allais dire oui. Oui, mais il y a aussi des gens qui ne supportent pas le Real Madrid qui nous écoutent hein, et qui apprécient nos échanges, nos discussions. Donc, on les salue à travers le monde, hein, d'où qu'ils soient.
Absolument.
Donc c'est le moment aussi de pouvoir de profiter de cette fin de saison et de cette effervescence qui nous rapproche de Wembley pour parler de tout ça. Messieurs, ben on a vu ben voilà 2-2, un score qui de parité dans cette rencontre, mais dans le contenu de cette rencontre, on a l'impression que le Real s'en sort plutôt pas mal. Hein, au vu de la physionomie de la rencontre avec ce résultat nul.
Je veux bien en parler au début, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas...
Vas-y, ouais, ben oui, Johan, le vacancier.
Non, mais oui, non, clairement que... Après, je ne veux pas vous mentir que l'entame de match, moi, ne m'a pas surprise en tant que tel, dans le sens où j'attendais plutôt que le Real puisse procéder en contre, donc je crois en bloc bas et qu'il puisse procéder en contre, parce qu'en général, je pense que les matchs allés qui se jouent à l'extérieur, je pense qu'il y a une certaine notion d'économie et de jouer surtout les coups à fond. Donc voilà, il n'y a pas forcément cette volonté-là. C'est pas vraiment dans notre ADN d'avoir cette volonté de dominer l'adversaire à l'extérieur. Voilà, surtout un adversaire de cette taille-là qui est le Bayern Munich, hein, avec ce que l'on sait justement sur le Bayern par rapport au rapport qu'ils ont sur les matchs européens. Donc non, moi ça m'a pas vraiment surpris. De voir un Real aussi attentiste et qui souhaitait juste procéder en compte. Par contre, moi, ce qui m'a déplu, c'est l'entame de la deuxième mi-temps. C'est l'entame de la deuxième mi-temps quand on encaisse 2 buts coup sur coup. On dirait un club français en Coupe d'Europe, justement, qui joue une Coupe d'Europe, qui n'a pas l'habitude de jouer à la Coupe d'Europe et qui prend 2 buts coup sur coup après avoir mené. Donc, voilà, c'est ça plutôt qui m'a déplu. Donc, j'étais pas vraiment surpris de l'entame de match et surtout du fait qu'on puisse piquer le Bayern au meilleur des moments. Donc, ouais, non, je pense que 2-2, c'est un résultat qui est, somme toute, positif, je pense, dans le sens où, maintenant, comme je l'ai toujours dit, hein, qu'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, il y aura un seul objectif à faire, il n'y aura pas de calcul à faire, le seul objectif, ce sera de gagner le match. Donc, je pense que c'est le meilleur résultat qui puisse arriver avant un match retour qui se jouera à domicile.
Damaz, un avis, c'est vrai que là, Yohan est revenu sur différents aspects qui ont peut-être plus ou moins plu ou des plus. Quand on voit quand même les 25 premières minutes du Real Madrid dans cette rencontre, il y a quand même quelques réserves qu'on est amené à avoir quand même sur justement une entame, une demi-finale de Coupe d'Europe. On est bientôt au mois de mai. Hein, on ne peut pas justement donc aborder une rencontre de cette manière-là. On a senti un Real qui était un petit peu à contre-temps, qui était un peu moins intense, justement donc laissait donc de gros espaces dans les transmissions du Bayern, qui arrivait assez facilement déjà à récupérer le ballon sur le schéma préférentiel côté gauche, du Real Madrid et on a dit, on pensait que voilà, le jeune Leimer avait bien bloqué notre Vinicius, mais surtout voilà, on voit aussi un Real qui concédait beaucoup trop de situations de jeu.
Un peu trop de situations de jeu, des ballons perdus assez rapidement au duel, notamment via Jude Bellingham, qui ce soir a quand même souffert, notamment dans les 20-30 premières minutes, et surtout une faculté à récupérer le ballon qui était assez faible du côté du Real Madrid. Hein. Moi, c'était chose que je n'ai pas forcément apprécié ce soir, surtout même dès la deuxième minute, où le Bayern, via Mazraoui, se permet de faire une passe dans l'axe envers de Harry Kane. Kane qui a le temps de pouvoir jouer pratiquement en une touche envers le roi Sané et créer une occasion de but immédiate dès la deuxième minute. Donc il y avait un manque d'agressivité évident de la part du Real pour une demi-finale de Ligue des Champions, c'est vraiment délicat. Donc quand on voit le score final qui est à 2-2, on peut considérer que le Real en effet s'en sort très bien, hein, bien entendu. Mais il y a plusieurs temps dans cette rencontre. Et durant les 20 premières minutes, personne ne peut être satisfait de ce que le Real a rendu. À la récupération, je l'ai déjà dit, même au niveau de la gestion du ballon, parce que le Real n'a pratiquement rien fait, soyons clairs. Et je dirais que même au niveau de l'attitude des joueurs, parce que j'ai vu le Real qui ne courait pas. On a vu bon nombre de joueurs qui ne couraient pas. Alors moi, franchement, j'ai posé la question en me disant, c'est vrai qu'Ancelotti nous a déjà démontré un Real bas, on est d'accord, mais peut-être que physiquement, les joueurs commencent un petit peu à peiner. Moi, j'ai peut-être pensé à ce genre de péripétie. Le match contre la Real Sociedad, pourtant, n'a pas forcément été si intensif que ça le week-end dernier, mais je me suis dit, j'ai commencé clairement à me poser des questions. Et quand le Bayern a un petit peu desserré son étau, et surtout quand j'ai vu le roi Sané rater sa prise de balle et tirer en haut, pied gauche, en première mi-temps, mais...
Ah, c'est terrible.
Oh non, il a raté sa prise de balle, et en plus il tire, oh là là. Mais avant ça, Tchouaméni perd un ballon important quand même au milieu de terrain, et Kane, dont on connaît la faculté à pouvoir faire une passe sur 20 à 30 mètres et à créer des situations de passes décisives pour ses ailiers, comme il a pu le fait plusieurs fois à Tottenham avec Son, ben, le roi Sané avait également l'occasion de pouvoir faire mal au Real Madrid, hein, après un très bon arrêt de Lunin sur la première occasion. Et il rate sa prise de balle, il tire au-dessus. Quand j'ai vu ça, je me suis dit... Est-ce que le Real peut encore craindre quelque chose ce soir ?
Ah ben clairement, parce que justement, j'avais cette impression-là, Johan, hein, donc, quand j'ai regardé la rencontre, la sortie donc, de la 20e minute, 22e minute, et qu'il y avait, on va dire, la fin du temps faible, justement, donc, du Real, ben, je me dis, mais attends, dans un match de Coupe d'Europe, on est, on va dire, où il y a beaucoup de situations de jeu, parce que même quand c'est 2 ou 3, c'est déjà beaucoup quand même en moins de 20 minutes, et que voilà, t'es dominé, mais tu te dis, mais attends, on n'a rien fait, on ne produit rien, on ne crée rien, et le Bayern, qui est à domicile et qui a demandé à tout son stade de s'habiller en rouge, mais on est toujours à 0-0, je me dis, ah, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on va sortir de ce temps faible, on va essayer de marquer. Et si on marque ce but, on va encore faire mal dans la tête de l'adversaire. Et c'est ce qui se passe. On va dire, donc là, sur le but de Vinicius Junior. Et ben là, on se dit que quand même, on se sent quand même intouchable à ce moment-là. Et on a l'impression que rien ne pourra, on va dire, entraver cette... domination mentale que l'on a sur nos adversaires dans la physionomie de la rencontre. Même si le but, bon, je pense que je te laisserai décrire un petit peu tout ça, c'est pas forcément du très haut niveau qu'on a vu.
Ouais, mais le but, non, franchement. En fait, moi, je pense que sur le but, déjà, dans un premier temps, bon, Kim se fait avoir comme un défenseur amateur, parce que franchement, se faire avoir par un tel appel de balle, un appel contre appel, se faire avoir comme ça, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment digne d'un joueur qui a joué à Fenerbahçe il y a 2 ans. Oh, je rigole, hein, pour les amis turcs. Mais plus sérieusement, non, c'est clair que c'est pas un défenseur de, il a pas fait un match de haut niveau par rapport à ce qu'on l'attend. Et puis, il y a Eric Dyer aussi, je trouve qu'il ne couvre pas.
Merci, merci.
Voilà. L'écart, justement, donc, entre Dyer et Kimmich, justement, avec le trou qui est laissé par, Marche. Il y a plus de 25 mètres entre justement donc pour Vinicius pour s'engouffrer dans la profondeur. Et dans l'axe en plus, c'est énorme.
Justement, c'est ça qui nous montre en fait que le Bayern cette année n'a pas été une équipe de haut niveau. Même si c'est vrai que le championnat a été largement dominé par le Bayer Leverkusen cette année en Bundesliga. La saison dernière, rappelez-vous que le Bayern, la saison dernière, c'est parce que Dortmund sont les plus gros floppers du monde qui gagnent le championnat. Donc voilà, ça montre un Bayern vraiment qui n'est pas bon depuis 2 ans. Ça, c'est clair. Moi, personnellement, je ne les voyais pas aller en demi-finale cette saison. Mais voilà, non, ça montre qu'on est face quand même à une équipe qui n'est pas vraiment une équipe de très haut niveau cette saison.
Clairement. Disons aussi que c'est pas une équipe qui, contrairement à 2014, 2017, 2018,
très loin du super Bayern. On est très très loin du Bayern qui était un rouleau compresseur incroyable avec une ambiance une ambiance mortelle justement à l'Allianz Arena, mais que le Real Madrid a toujours réussi à dompter, hein, ça faut pas l'oublier aussi. Mais oui. Donc, je pense que, en fait, j'ai eu l'impression que Bayern a permis au Real Madrid d'être passif entre guillemets. Je pense que c'est ça, parce que le Bayern justement n'a pas montré une. Je pense que voilà, déjà dans un premier temps, s'il n'y a pas cette entame de deuxième mi-temps de aussi faible de la part des joueurs, le Bayern ne revient même pas un partout, je pense. Donc, et c'est ça qui fait que j'ai un avis qui est assez mitigé par rapport à ce que propose le Bayern sur ce match-là. Et je pense qu'une victoire justement ne nous aurait pas mis dans les meilleures conditions. Je pense qu'une victoire justement du Real ne nous aurait pas mis dans les meilleures conditions pour le match retour. Parce qu'en fait, moi, ce match-là il me fait un petit peu penser à l'aller qu'on a vu à Chelsea contre Chelsea il y a 2 ans où on s'est fait peur en fait. C'est pour ça que moi je me suis dit si on gagne ce match aller à Munich. Je pense qu'il y aura, surtout avec un Bayern qui montre un visage aussi moyen, je pense qu'il y aura peut-être un petit peu de laxisme sur le match retour à Bernabeu. Mais là, je pense que justement, avec cette obligation qu'il y a de gagner, je pense que la physionomie du match retour sera pas la même.
Mais tu vois, avec ce que tu viens de dire, Johan, ça prouve vraiment que ce Bayern est vraiment faible. Et oui, parce que le Real Madrid, après l'ouverture du score, il y a un joueur quand même qu'il faut quand même mettre en évidence, c'est Toni Kroos.
Oh là là. Oui, bien sûr, parce que c'est lui le passeur et qui a vu rapidement la brèche.
Une passe magnifique, qu'on le veuille ou non, même si Kim fait n'importe quoi, on le sait très bien, digne d'un défenseur de district. Toni Kroos se met clairement en évidence via cette passe. Mais avant cette passe décisive, messieurs, le Real, dans ses temps de possession, a le temps de faire ce qu'ils veulent.
C'est ça.
Dans cette configuration défensive où le ballon est bien entendu vers les défenseurs et vers Toni Kroos. Il y a un jeu de passe qui se fait avec Tchouaméni et Nacho et Rudiger jusqu'à Lucas Vazquez et Toni Kroos a le temps de toucher le ballon. Il a le temps 1 fois, 2 fois, 10 fois. Donc quand il fait cette passe clé sur 20 à 30 mètres,
c'est pas normal.
Et de 2, mais ça prouve quelque part la faiblesse des adversaires qui faisaient front ce soir au Real Madrid. Et à la rigueur, j'ai rien contre Thomas Müller qui se bat avec ses armes. Mais bien sûr, exactement. Mais c'est pas lui qu'il faut mettre. C'est pas sur un point individuel. C'est que lorsque le Real Madrid ouvre le score, sincèrement, moi je pense sincèrement que le Real peut gagner 1-3 ce soir, au maximum. Le Real avait tout pour gagner ce soir. Il devait gagner ce soir. Si. Je vais te rejoindre, Yuan, là-dessus. Si le Bayern est à la rigueur plus haut. En termes de niveau, le Real ne serait pas, selon moi, le Real que je connais, n'aurait pas été si laxiste et si, je dirais, dilettant au début de cette deuxième mi-temps. Je ne pense pas. Ça aurait eu, à mon avis, le même effet que face à City au match retour. Où là, non, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de début de deuxième mi-temps. Mais le Real s'est endormi, soyons clairs.
Ah, clairement.
Excuse-moi, sur le début de... Notamment de la première mi-temps, j'ai pensé à City. Parce qu'en fait, j'ai fait pas mal de corrélations avec la saison Real gagnée avec des champions. Et l'entame, justement, de match que fait le Real Madrid cette saison, contre le Bayern sur ce match-là, me fait penser un petit peu à l'entame qu'il y a contre City à l'Etihad il y a 2 ans, où vraiment les premières minutes sont très difficiles. Les premières minutes sont très, très, très difficiles. C'est ça. Et justement, au contrario de ce qu'on a vu il y a 2 ans à l'Etihad, le Bayern n'a pas montré justement n'a pas été létal, en fait, comme le Bayern, comme le vrai Bayern Munich est censé l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que.
Absolument.
C'est pour ça que j'ai eu justement ce. j'étais très, à la base, je suis pas très serein quand le Real entame les matchs comme ça, mais là, face à ce Bayern-là, j'étais très serein parce que quand je voyais le dernier geste, surtout des mecs comme Sané, comme Moussiala, je me disais, c'est ça le Bayern? Non. Le Bayern,
on est d'accord.
Voilà, le Bayern n'est pas censé être le Bayern qu'on a vu ce soir. C'est pas le Bayern d'un demi-finale, digne d'un demi-finaliste de Ligue des Champions.
Non.
C'est pas normal.
Non.
Ah, mais c'est vrai que. Peut-être qu'on est peut-être déçu de la, j'allais dire de l'opposition, mais surtout ce qu'il faut justement souligner ou également, c'est le joueur de classe mondiale qui est devenu Vinicius Junior, qui dans l'axe, hein, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de réserves et je sais que Johan en faisait partie. Le jeu Vinicius Junior fait la différence dans l'axe, fait son, donc le décrochage axial, l'appel axial et le but, on va dire, oui, où il aligne le heure dans l'axe, donc où il montre, on va dire, une autre palette de son jeu. Et c'est ça qui est super aussi dans le football actuel, c'est de se dire que quand vous il y a une erreur qui est faite par la défense du Bayern, mais vous la faites payer immédiatement,
tout de suite.
Toni Kroos justement qui justement par rapport à son ouverture, et aussi Vinicius Junior face au but qui tue son adversaire et justement qui refroidit l'ambiance
complet
du côté de la Lanz Arena où on rêvait à croire que le Real pouvait dérailler complètement. Et encore une fois, c'est le 1-0 à la mi-temps, on est un peu dans le hold-up et comme vous l'avez dit, je dis pas hold up, hein, c'est pas forcément hold up, mais qu'on est.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Voilà, exactement. Donc c'est cher payé justement, donc pour bien le sûr. Bayern est bien payé pour le Real.
Okay, oui.
Cependant, la deuxième période, effectivement, donc en 4 minutes, le Real Madrid a semblé perdre le fil de cette rencontre, puisqu'il y a le but course au cou de Sané, où justement donc on peut reprocher des choses justement donc dans le comportement défensif d'ensemble du côté gauche de notre équipe, et permettant à Sané de marquer, et aussi le penalty où Lucas Vázquez fait une erreur. Et c'est vrai que voilà, donc dans cet ensemble là, et ben entre le deuxième but jusqu'au but de l'égalisation, on a l'impression d'un Real Madrid qui est totalement désorganisé, qui perd le fil de sa rencontre et qui justement ne maîtrise plus rien, comme on a pu le constater tout au long de la saison, où en fait il y avait beaucoup de résilience, et là j'avais l'impression qu'on avait perdu cette résilience là.
Ouais, c'était clairement rendu visible que le Real Madrid perdait main de cette rencontre, et c'était absolument pas attendu vu la prestation du Bayern Munich, qui était certes volontaire, mais soyons honnêtes, clairement limitée. Sur ce deuxième but, c'est vrai qu'il y a l'appel. Sur le premier but, pardon, il y a l'appel de bas de Kimmich sur le côté droit, qui en effet fait une une course sans ballon, qui vient un petit peu gêner Mendy, qui n'est pas soutenu, soyons clairs, et ça permet à Leroy Sané de repiquer dans l'axe et de tirer pied gauche. Un tir puissant, c'est vrai.
Un beau but, hein.
Un tir puissant, c'est vrai. Cependant, Lounine a sa part de responsabilité. Eh oui, on prend pas un but premier poteau sans compter que ton positionnement est à proximité de ton poteau, de l'endroit où le ballon est tiré. C'est vrai que ça part vite, soyons clairs. Hein. Donc en soi, c'est pas une faute absolue que je mets à Lounine, mais je le tiens quand même responsable d'avoir encaissé un but comme celui-ci.
Bien sûr.
Non, mais ça c'est, soyons objectifs. On n'a rien contre ce gardien russe qui fait une très belle campagne de Ligue des Champions.
Ukrainien,
pardon. Mais décidément.
C'est pas bien.
Alors que bientôt...
Non.
Fermons le l'aparté, ça s'arrête là. Lounine, là, le gardien ukrainien.
Soviétique.
Ça c'est encore terrible, ça. Fait en soi une belle prestation en Ligue des Champions. N'oublions pas le bel arrêt qu'il a fait en première mi-temps en 1 contre 1 face à Leroy Sané.
À Leroy Sané,
mais,
oui.
Dès la première minute, absolument. Mais sur ce but-là, j'attends quand même à ce qu'il aille au sol plus vite. Soyons clairs, sans compter que son tir, il est exécuté à proximité de l'entrée de la surface de réparation de manière excentrée. Bon, ça fait quand même beaucoup de détails malheureusement qui agissent contre lui, mais là où aussi je critique le Real Madrid, c'est que le Real, psychologiquement, rejoint les autres clubs moyens en Ligue des Champions. Rejoint, comme a dit Johan, les clubs français en Coupe d'Europe au printemps, en se mettant en difficulté 4 à 5 minutes après, sifflé par Clément Turpin. Ah non, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Et Lucas Vázquez, en situation défensive, notamment en deuxième mi-temps, n'a pas passé de bons moments. Hein. Il a pris son carton.
Il a pris bien après hein, dans la rencontre.
Bien après, absolument, bien après. Mais c'est une accumulation de pas mal de fautes aussi auxquelles Lucas Vázquez était en retard. Et ce qui m'a dérangé dans cette deuxième mi-temps, c'est que le Real avait du mal à tenir le ballon. Avait du mal. Et on pensait même à ce que le Bayern puisse faire encore plus mal après ce deuxième but marqué sur penalty.
Ça n'a pas été le cas. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même eu des ordres, des organisations, des changements qui ont été faits, qui n'ont pas forcément été bien compris. Parce que c'est vrai que là, la réaction, et c'est vrai que c'est l'information forte hein, de ce match aller, c'était la non-titularisation de Eduardo Camavinga. Puisque on va dire que Tchouaméni avait été aligné donc au milieu de terrain aux côtés de Kroos et Valverde avec Jude Bellingham parce que on a mis Nacho en défense centrale et en fait moi c'est cette chose là que moi sur lequel je contestais un petit peu donc cette approche de la part de Carlo Ancelotti, c'est de dire que si Nacho joue, ça veut dire que soit Camavinga soit Tchouaméni devait être sur le banc. Ce qui n'a pas forcément de sens parce qu'on devait faire jouer peut-être Tchouaméni et Camavinga pour essayer d'avoir plus d'agressivité sur la récupération du ballon et surtout une meilleure tenue de balle. Même si c'est ce qu'on avait reproché Damas il y a deux semaines contre City, donc à Eduardo Camavinga en termes de tenue de balle dans l'axe, je pense que l'adversité faisait qu'il aurait pu gérer le tempo mais de meilleure façon.
Je pense.
Face. Ah, les Goretzka, Leimer, etc. Oui, non, qui est sorti à la mi-temps, effectivement. Je ne sais pas s'il était diminué, mais...
Justement, je pense que... En fait, tout à l'heure, je voulais intervenir par rapport à ce que vous dites le début de la deuxième mi-temps. Je pense que les changements de Thomas Tuchel ont été concluants parce qu'il a changé de positionnement de pas mal de joueurs. Et je pense que par rapport à ça, le Real a peut-être été... déstabilisé en termes notamment de marquage.
La simple permutation qu'on a vue de Leroy Sané avec Moussiala par exemple.
Et puis il y a l'entrée de Guerrero aussi. Guerrero justement qui a remplacé. Je pense que c'est lui qui remplace Goretzka.
C'est lui qui remplace Goretzka, tout à fait.
Donc je trouve qu'il y a eu une confusion justement de la part des joueurs du Real dans l'approche de cette deuxième mi-temps. Je pense que tactiquement, Tuchel a pas mal surpris justement les joueurs du Real à ce niveau-là.
En effet, de toute manière, ça s'est justifié dans la mesure où c'est Sané qui égalise et que Moussala provoque le pénalty, un pénalty qui n'aurait pas dû être provoqué. Je vais m'adresser aux défenseurs qui nous écoutent, supporters du Real ou non. Messieurs, vous êtes en supériorité numérique face à un adversaire qui essaie de pénétrer dans votre surface. Pas besoin de faire faute. Votre position physique, votre présence en termes de densité est censée faire, en effet, mettre en échec cette pénétration. Moussala, il n'y a pas besoin de faire faute. Là, contrairement à l'égalisation de Sané, il y avait un manque de présence des joueurs du Real Madrid. Ça, c'est sur le but de Sané, l'égalisation. Mais par rapport à Moussala, il y avait pas mal de joueurs du Real qui s'étaient repositionnés dans la phase de réparation à proximité de Jordan Moussala. Donc la faute de Lucas Vázquez n'avait pas lieu d'être. Et malheureusement,
il y a eu pénalty, effectivement, et le Bayern a mené 2-1 dans cette rencontre. Et je ne vous cache pas que j'étais moi aussi un petit peu KO debout hein, devant la situation. Effectivement, même si on sait que les matchs ne sont pas finis en Coupe d'Europe et que l'on connaît, on va dire, justement donc les tendances aux erreurs dans le football de haut niveau aujourd'hui, en fait, il n'y avait pas les indices, notamment dans l'animation offensive, quand on voit par exemple... le Jude Bellingham, quand on voit Rodrigo qui avait été, on va dire, très discret jusqu'ici, je pensais pas que on allait revenir de façon raisonnée, construite tactiquement pour déjà revenir à 2-2. mais aussi pour essayer de reprendre le fil de la rencontre. Et quand tu vois les changements, que tu vois que, par exemple, oui, c'est ça, Nacho sort, puis ensuite, que ce soit Bellingham qui sort, je crois que c'est assez rare dans la saison qu'il sorte dans un match aussi important, aussi tôt dans la rencontre, hein, même si c'est un quart d'heure de la fin. Toni Kroos est sorti également. On fait rentrer Modric, on fait rentrer Brahim, après on a fait
Ousselou rentrer, après, hein,
Ousselou par la suite. Mais voilà, seulement voilà, ben il y a encore une situation de jeu où il y a quand même le talent quand même de deux joueurs qui s'expriment sur une action en termes de combinaison, incroyable. En particulier Vinicius Junior et Rodrigo justement qui provoque le penalty de Kim et qui donne justement donc l'occasion à Vinicius de faire 2-2. Un mot ou voilà donc
Johan, tu commences.
Une analyse sur Vinicius Junior qui a marqué son deuxième but de la soirée et justement qui montre qu'il prend quand même une autre dimension sur cette année 2024.
Très 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 heureux et très fier de ce qui est devenu ce joueur. Je pense que à l'entame de la saison 2021-2022, on n'aurait pas pu penser justement qu'il allait atteindre un tel niveau et avoir une telle importance dans le 11 du Real Madrid. Aujourd'hui, Vinicius Junior, c'est de toute façon Real Madrid à chaque période, il y a ce joueur clé, ce facteur X. Il y a eu Raúl, il y a eu Cristiano Ronaldo, et il y a eu Karim Benzema, et là aujourd'hui c'est Vinicius Junior. Je suis, comme vous le savez, moi j'étais un de ces fervents défenseurs justement, même dans sa période d'apprentissage. Mais très honnêtement, je ne pensais pas qu'il allait atteindre un tel niveau et qu'il allait avoir un tel degré d'importance justement au Real Madrid. Donc là, il est en train de montrer qu'à chaque match, il est décisif. Quand vous regardez bien, chaque gros match, il est décisif. Nous qui sommes nous qui suivons le football depuis le milieu et la fin des années 90, on sait que les matchs les plus importants, c'est les matchs du printemps. Et là, Vinicius Junior est en train de montrer après le match face à City que c'est encore quelqu'un qui répond présent. Il met un doublé. Il a des statistiques, parce que bon, là, on n'aime pas trop parler stats, hein, mais il a des statistiques qui sont incroyables pour un joueur qui a été blessé pendant près de 3 mois, il me semble. Donc, non.
Oui, c'est ça, au niveau de l'automne, hein, c'est ça.
C'est ça. Donc, je pense que Vinicius Junior est actuellement le meilleur joueur du monde, je pense. Ouais, je pense que ça se joue entre lui et puis le capitaine de l'équipe de France. Mais aujourd'hui, je pense que Vinicius Junior est en train de montrer qu'il est un joueur qui est déjà peut-être le meilleur à l'heure actuelle, mais surtout il est en train d'être un joueur très 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 régulier, parce que je vous le dis, c'est sa troisième saison, il est en train d'atteindre un niveau de top joueur, donc très très fier et très content de ce qu'il est devenu.
Mais justement, il monte en gamme Damas, et il montre aussi qu'en termes de nerfs, il est très solide. Justement dans ses prestations, dans ses performances, et surtout en dépit des différentes provocations. Mais voilà, c'est pas ça le plus important. J'ai envie qu'on parle vraiment donc de sa performance sur le terrain, de ce qu'il fait sur le terrain en termes de mouvement et justement des gestes décisifs qu'il a été amené à faire aussi sur cette rencontre. Hein.
Mais Gilles, Johan, au début de cette rencontre, on a mentionné que le Bayern Munich récupérait le ballon assez haut. Au cours des 20-30 premières minutes, au détriment de Rodrigo, mais bien entendu de Vinicius, qui en effet perdait certains duels avec Leimer, par exemple. Et quand le Bayern a commencé à desserrer de son étau, ou plutôt à revenir au niveau auquel il était, soyons clairs, on a vu un Vinicius qui commençait un petit peu à éliminer les joueurs, comme il sait le faire, mais plus que sur le côté, en fait. Voilà. Vinicius commence davantage à s'exprimer dans l'axe. Et Clément Turpin, encore une fois, n'a pas sifflé quand il fallait siffler, hein, parce que quand il siffle, lui, quand il ne faut pas siffler, il siffle, quand il siffle, enfin bref, vous avez compris le sens de ma phrase. Et Vinicius, plusieurs fois, selon moi, devait bénéficier de certaines fautes qui n'ont pas été sifflées de sa part et qui, il y a quelques temps, pouvaient l'amener à réagir vivement à titre émotionnel, soyons clairs. Il ne s'est pas désorganisé au cours de cette rencontre-là parce que y a la bouteille qui commence à rentrer, c'est important. Et quand vient maintenant cette égalisation, Déjà de 1, ça démontre le niveau de joueur qu'il est, parce que c'est clairement la seule occasion du Real Madrid et la seule incursion du Real, je dirais même, dans cette première mi-temps. Et allons même plus loin dans la démarche, c'est que Vinicius, quand le Real défend bas, le Real récupère le ballon. Dans ses 20 à 25 premiers mètres, le ballon va sur qui directement? Vinicius et Rodrigo. Et rien qu'avec Vinicius à 30 mètres au plus haut de tes propres buts de ton camp, t'es capable d'être dangereux 70 mètres plus loin, frère. On s'en rend pas compte de quoi on parle. Comment vous pouvez récupérer le ballon? Vous êtes dans vos 30 à 35 mètres de votre camp, mais vous pouvez quand même créer le danger 70 mètres plus loin. C'est un truc de malade. Et,
oui,
sans compter qu'il faut faire ça plusieurs fois dans la rencontre. Eh, Vinicius, il a un coffre. Je ne sais pas comment il se prépare, ce mec, mais c'est extrêmement sérieux. Parce que même s'il n'y a pas but, il te tire ton équipe sur 40 mètres plusieurs fois, sans perdre plusieurs fois le ballon comme un débile. Non. Vinicius, c'est incroyable. Et il y a un joueur qui a particulièrement souffert ce soir, c'est Kim. Parce qu'au-delà du pénalty, au-delà du pénalty, au-delà de l'appel de balle plein axe auquel il se fait prendre comme un enfant, Benjamin, il y a beaucoup de situations où il souffre. Avant le deuxième but du Real Madrid,
oui.
Il y a la passe de Modric à mi-hauteur qui nous avait fait la même chose contre Chelsea, mais cette fois-ci, c'était plus orienté dans la surface. Mais là, c'était clairement une profondeur.
Ouais, dans le dos, effectivement, il met Vinicius qui se présente face à l'heure. J'étais persuadé que, en fait, là, je me dis que s'il marque Vinicius à ce moment-là, je me dis non, c'est pas possible. Là, c'est voilà, il y a tous les superlatifs exceptionnels. Mais j'étais persuadé, là, vu comment l'angle était face justement pied faible, que Neuer allait la sortir. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on voit que quand même Kim n'arrive pas à comprendre les mouvements de Vinicius.
C'est ça qui est incroyable quand même. Tu peux être un défenseur champion d'Italie en titre, qui signe au Bayern Munich, qui joue une demi-finale de Ligue des Champions. Donc, tu es un défenseur, somme toute, de très haut niveau, bien de haut niveau. Que tu fasses un match aussi raté que ça dans une demi-finale, et sachant que tu n'es pas un défenseur de 38 ans, tu vois, t'es pas Fernando Hierro en demi-finale avec des champions au Stadio delle Alpi en 2003, qui a déjà 35 ans ou 36 ans. Non, t'es Kim, t'as 25, 26 ans, t'es dans la pleine force de l'âge, et tu te fasses avoir autant de fois par des joueurs qui... que tu fasses avoir autant de fois, en fait, à un tel niveau, non, c'est pas possible. En plus, t'es défenseur du Bayern, du grand Bayern de Munich. C'est pas possible. Et quand vous voyez la faute qu'il fait sur Rodrigo, je suis désolé, tout à l'heure on l'a dit en off, on en a rigolé, mais c'est une faute de vétéran qui joue avec des jeunes. Je suis désolé, tu peux pas t'agripper un attaquant comme ça et le faire tomber. On dirait le catch de Kinshasa avec City Train. C'est pas possible.
Mais tu vois cette action, Johan, dont tu parles. Regardez comment Vinicius il amène le ballon.
Oui.
Déjà, il est déjà en duel avec deux mecs. Il arrive à rester debout. Et c'est un truc de malade, frère. T'as déjà couru partout. T'arrives à rester debout. Il n'y a aucun autre soutien que Rodrigo dans la surface de réparation. Parce qu'avant cette action, il y a au moins 5 à 6 joueurs du Bayern Munich concentrés sur 15 à 20 mètres. C'est vraiment sur une petite surface qu'il arrive à s'exprimer. Et il fait cette passe. Eh, Vinicius, c'est
trop. Non, c'est trop, c'est trop.
Des axes, tout le monde.
Mais franchement, ce qui est impressionnant avec Vinicius, c'est que déjà, premièrement, physiquement, c'est un monstre. Franchement, jamais j'aurais pu croire qu'il allait atteindre qu'il allait avoir un tel coffre, savoir enchaîner les courses à haute intensité pendant presque 90 minutes. C'est extraordinaire. C'est surtout, rappelez-vous, ce qu'on lui reprochait au début de sa carrière, sa lucidité. Aujourd'hui, Vinicius, il fait que les bons choix en général dans les 30 derniers mètres.
Alors,
dis-moi.
Excuse-moi de te couper, frérot. Il y a des gens qui ont dit, sur l'occasion de la passe de Modric et la course de Vinicius vers la surface de réparation, en disant, mais pourquoi il n'a pas fait la passe à Brahim? Il aurait dû faire la passe, Diaz y venait. Vous en pensez quoi?
Mais Damas, je ne sais pas si tu vois au ralenti, on le montre, que Vinicius fait fin justement de voir l'appel de balle de Brahim pour au dernier moment tenter de prendre le meilleur à contre-pied.
Exact. Il lève la tête, hein. Il lève la tête.
Il
lève la tête pour voir, pour, entre guillemets, c'est comme une feinte, en fait, ce qu'il fait. Il lève la tête, mais je pense qu'au fond de lui, il sait qu'il veut ajuster le Neuer. Donc, il lève la tête et il tente un tir angle fermé sur Neuer. Et bon, Neuer, justement, joue bien le coup. Après, voilà,
très belle arrêt.
Mais non, je pense que Vinicius, aujourd'hui, en termes de choix, pour la plupart, on va dire, je pense qu'il est encore perfectible quand même sur certains choix.
Oui.
Pour la plupart des choix qu'il fait, non, c'est des choix de très grands joueurs et c'est devenu un très grand joueur, Vinicius Junior.
C'est tout, c'est tout.
Ah oui, mais justement, quand on voit ce qu'il a pu faire depuis le début de cette année civile et même oui. Voilà, donc là, dans cette campagne de Ligue des Champions, moi, les passes décisives, pied gauche, tout au long de cette campagne, mais j'ai dit, mais on se rend pas compte. Et là, ce que Damas a raconté avec vraiment tant de détails, c'est pour ça que quand on me dit oui, concurrence avec peut-être un joueur évoluant dans une ligue mineure pour le meilleur joueur du monde, ça me fait un peu de peine. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a des choses que l'on demande à des joueurs qui sont censés être le meilleur joueur du monde, et on le voit pas chez ces personnes-là. Et en fait, justement, c'est pas être le meilleur joueur du monde, c'est pas simplement marquer des buts.
Non, faut voir au-delà des buts.
Ah, mais clairement, et justement, parce que là, quand pour parler de Kylian, effectivement, quand on regarde le match qu'il a fait contre Barcelone, vous sortez de ce contexte-là, on n'est pas sur les mêmes, on n'est pas sur les mêmes types de comparaisons que l'on peut avoir avec Vinicius Junior. Je parle
dans
le jeu sans ballon et dans ce qu'il
a à faire. C'est pas le même rôle. Ils n'ont pas nécessairement le même rôle dans la même animation tactique, etc. Non, je pense que c'est pas, on peut pas comparer. Je pense qu'on peut pas comparer à ce niveau-là.
Exact.
Surtout par rapport au match face au Barça, on peut pas comparer. Maintenant, moi, je pense qu'en termes de caractéristiques, je pense que Kylian est peut-être un peu plus, un petit peu plus tueur, on va dire, que Vinicius. Un petit peu plus tueur.
Oui, aujourd'hui, bien sûr.
Aujourd'hui, ouais. Mais ce que montre Vinicius, en fait, moi, ce qui fait que aujourd'hui, je peux mettre Kylian et Vinicius dans le même, dans le même panier, entre guillemets. C'est Vinicius et cette capacité à être décisif, que ce soit sur la dernière passe ou que ce soit devant le but. Parce que vous voyez le but en première mi-temps, le but que met Vinicius en première mi-temps, c'est la première occasion du Real Madrid.
Tout à fait.
Et c'est Vinicius justement qui se crée cette occasion-là à travers son appel de balle. Il exécute Neuer comme un grand attaquant. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, il aligne.
Vraiment, c'est un attaquant qui dit punition, entre guillemets. Vous m'avez laissé, Kim, t'as fait ton marquage bizarre. Punition.
Puni.
C'est ça, en fait. Punition. Et c'est ça, quand on voit qu'un joueur est capable de punir une équipe en demi-finale de Ligue des Champions sur sa première occasion, montre quand même que le joueur a atteint un certain niveau, quand même.
Mais c'est même le pourquoi aujourd'hui qu'on critique le Bayern au travers de ce podcast par rapport à ce point de caractéristique d'un match de très très haut niveau. Sané aurait dû ouvrir le score sur cette première occasion de la très belle déviation de Kane. Il aurait dû être décisif, je suis désolé. Ça, c'est, tu dois être puni quand tu auras des occasions comme ça.
Ce que Makai a fait en 2007, Sané aurait dû le faire là.
Ah, mais on est en huitième de finale.
Oui.
Ah oui, on est en huitième de finale en 2007, oui, tout à fait.
C'est Bayern Real Madrid.
Exactement. Et quand tu vois plus loin dans cette démarche, Vinicius, en plus d'être décisif, comme tu l'as bien dit, Johan, mais c'est également dans la configuration avec les autres joueurs, dans cette capacité à créer de la cohésion avec les autres. Il sait créer de la cohésion avec les autres, mais il sait également se débrouiller tout seul pour conserver le ballon. Parce que Vinicius, il y a beaucoup de gens, ils vont penser, ouais, il va courir tout droit, il va éliminer, feinte de corps, accélérer. Non. Il n'y a pas que ça. Vinicius peut le faire, mais il peut également faire une feinte pour arrêter de courir et temporiser.
C'est ça, tout à fait. Et il a fait à différentes reprises dans la rencontre. Et ça, c'est une gestion du tempo, effectivement, que j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui savent le faire.
Franchement,
Real Madrid.
Et franchement, toute proportion gardée, moi, il y a le joueur qui est là, à travers les caractéristiques que vous m'avez rappelées, le joueur qui est capable de faire ça, il a été champion du monde 2022. Et capitaine de l'équipe de champion du monde 2022.
Oui, effectivement. Donc là c'est
là,
encore,
tu, là,
encore,
là.
C'est encore le dernier.
Toute proportion gardée.
C'est encore le dernier étage, ça. Et ça, c'est.
Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un joueur justement qui, Vinicius aujourd'hui, c'est un joueur qui est capable d'être, entre guillemets, le meneur de jeu du Real Madrid, d'être le leader technique du Real Madrid. Vous voyez ce que je veux dire? Il est capable d'être, en fait, il est capable d'être celui qui influe sur le tempo de l'équipe, notamment au niveau des attaques. Et c'est ça qui est incroyable. Parce que le Vinicius de l'année dernière, il n'est pas du tout comme ça, hein, le Vinicius de l'année dernière. Le Vinicius de l'année dernière, il est cantonné à un poste d'ailier gauche où il fait des différences. Où il fait des différences, justement, bah, c'est un petit peu le seul qui faisait des différences, vu que Benzema était pas mal blessé la saison dernière. Donc, c'est, il était cantonné au poste d'ailier gauche l'année dernière. Et là, aujourd'hui, le fait que Carlo Ancelotti met un coup de poing envers Carlo Ancelotti, parce que même si on ne gagne pas la Ligue des Champions cette année, franchement, moi qui croyais très, très peu à son 4-4-2 en losange, force est de constater aujourd'hui, ça a été peut-être le dispositif tactique qui a permis aux joueurs de progresser, en tout cas, surtout de progresser. Parce que le Rodrigo d'il y a 2 ans, l'année dernière, n'est pas le Rodrigo de cette année. Vinicius, c'est pareil. Donc, franchement, je m'incline vis-à-vis de Carlo Ancelotti. J'ai voulu le défier tactiquement. Je suis quelqu'un de très prétentieux sur ce point. Mais non, plus sérieusement, non. Je pense que Vinicius, aujourd'hui, a élargi en fait sa palette. Il a élargi sa palette technique, mais surtout tactique. Et je pense que...
dans la lecture des défenseurs adverses,
et moi, ce qui me fait, entre guillemets, flipper, c'est que j'arrive même pas à déceler la limite que va atteindre Vinicius, en fait. Parce que pendant un moment, un joueur a toujours une... Vous savez, les joueurs, mis à part les joueurs comme les... Voilà, comme j'ai dit, comme des Messi, comme les Cristiano Ronaldo, il y a toujours des joueurs... Donc, des joueurs qui sont d'un cran en dessous ont toujours une limite, en fait. Et Vinicius, malheureusement, j'arrive même pas à déceler quelle est la limite qu'il va avoir dans les prochaines années. Parce que là, ce qu'il montre, en fait, c'est tout simplement incroyable, parce qu'il progresse au fur et à mesure des matchs et au fur et à mesure des saisons. Et je serais bien curieux de voir vraiment la limite que va atteindre Vinicius. Quelle sera sa limite
Et en plus de la limite dont tu parles, Johan, on peut également considérer la peur qu'il inflige chez son adversaire.
Hein. C'est trop aujourd'hui.
Moi, j'ai grandi avec Canal+, les gars. Très cher auditeur, c'est très sûr ce que je vais vous dire. On a vu Mike Tyson sur Canal+. J'ai eu l'honneur de regarder Mike Tyson. Et je peux vous assurer que quand il monte sur le ring, le stress, en commençant par Frank Bruno, qu'il a vu rejaillir en voyant Mike Tyson, je peux vous assurer que Vinicius communique pas le même genre de peur, c'est pas le même sport. Mais on sait que quand il est là, psychologiquement, il y a une crainte que tout grand attaquant doit communiquer face à son défenseur et même vice-versa. C'est-à-dire que Ayala, il va rentrer Taras en disant, poteau, toi, quand tu me vois, tu dois... Mais c'est important. Tu dois avoir cette communication. Canavaro fait la même chose avec Thierry Henry en 2006. Puyol l'a fait. Donc, tous ces grands noms-là ne sont pas que grands parce qu'ils sont forts footballistiquement parlant.
Exactement, ouais.
Il y a une force également, je dirais, invisible qu'il faut savoir communiquer par ton entité en tant que joueur. Et là, Vinicius devient cette entité. Il le présente. Déjà, sans compter qu'il a déjà marqué en finale de Ligue des Champions. Et en plus de ça...
On a tendance à l'oublier.
Ouais, mais hein, Liverpool, voilà. Mais il met le doublé ce soir. C'est lui qui le met. Et on le critiquait, je m'en souvenais, lors de nos anciens podcasts, où en quart de finale, justement, il n'a pas marqué, il n'a pas été bon. Là, vous allez dire quoi? Et en plus, à Munich.
Ah oui, clairement. Ça, c'est, quand tu vois ça, j'allais dire que même Vinicius n'a pas eu besoin même d'être décisif contre City en marquant le but pour pouvoir être influent sur le jeu et dans le comportement, on va dire, offensif du Real Madrid. Donc il montre différents aspects de son jeu qui enchantent, on va dire, ceux qui sont amenés à voir et encenser, on va dire, le monde du football. Mais c'est vrai que par contraste, j'allais dire que ce sont des, c'est un petit peu injuste, hein, même si sur la rencontre qu'il a effectuée, ben Jude Bellingham a été, on va dire, moins influent. Peut-être qu'on attendait peut-être davantage de lui dans
absolument physique, hein. C'était le point que moi je voulais évoquer. En plus, excuse-moi, Gilles, hein, je voulais évoquer.
Oui, vas-y, Damien, je te lance dessus. Ouais.
Ah ben merci, Gilles. Par rapport à Jude Bellingham, ce soir, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'il n'a pas pu conserver le ballon comme il sait le faire. Il a toujours été quand même actif, que ce soit même sur du sans ballon, notamment dans les premières minutes où il fait un appel de balle plein axe qui amène la passe de Lucas Vazquez, là, mais malheureusement, il était hors jeu. Donc, Jude Bellingham était en forme pour pouvoir, en effet, produire ça. Mais il a perdu beaucoup de duels. Leimer lui a rendu la vie
difficile. Difficile, exactement.
Ouais, c'était quand même compliqué. Hein. On avait des duels de la tête, balle au pied, et surtout, il a perdu des ballons dans des zones qui auraient pu être dangereuses. Il ne nous a pas habitués à ce genre de performance-là. Mais en connaissant un petit peu le caractère du bonhomme, parce que je suis supporter du Borussia Dortmund, je tiens à le préciser vu les circonstances, et en ayant vu Jude Bellingham lors des années précédentes, il risquerait de revenir au match retour dans 8 jours avec... Merci Johan, tu peux suivre.
Ouais, énervé, parce que justement, ce qui est plaisant aussi chez Jude Bellingham, c'est que je pense, et je pense que c'est pas présomptueux de le dire, c'est que c'est un champion dans sa tête. Je pense qu'il a une mentalité de champion. Et au-delà du fait, voilà, qu'il soit l'un des meilleurs buteurs de la Liga, etc. Je pense que la gagne qu'il a justement dans son état d'esprit de gagneur qu'il a fait qu'il est capable d'être décisif dans les dernières minutes de certains matchs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc combien de fois il a été décisif dans les dernières minutes? Voilà, il y a pas mal de gens qui ont parlé de Billing Time parce que c'est quelqu'un justement qui est là pour gagner et il le montre en fait depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Je pense qu'on l'a vu lors du dernier Classico, un match d'ailleurs qui m'a pas mal énervé au vu de la prestation qu'a fait le Real Madrid face à cette équipe.
Une fois de plus, j'ai l'impression, ouais.
Ils sont pas nuls, le Barça.
Non, ils sont nuls. Oh,
ils sont en dessous du Real Madrid.
Ils sont pas bons.
Oui, on le sait qu'ils sont en dessous, Gilles. Mais ce match-là, franchement, le Barça s'est battu. Franchement, ils n'ont pas été.
C'était pas fort. Oh. Damas, ils n'étaient pas forts. Arrêtons.
Ne parlons pas de
ce match-là.
Non, c'est pas la peine.
C'est pour l'aparté. Mais oui, non, Jude Bellingham, justement, et moi, c'est ça qui m'impressionne chez lui, c'est qu'il a cette mentalité de gagnant. Et je pense qu'il reviendra au match retour avec d'autres intentions. Il y aura toute une atmosphère particulière. Hein, voilà, parce qu'on sait très bien, vous savez, les demi-finales qui se joue à Bernabeu, surtout quand c'est le match retour, ça a toujours donné lieu à une ambiance particulière. Moi, je pense à Wolfsburg, je pense à City aussi d'il y a 2 ans. Donc, je pense que Jude Bellingham aura envie justement de faire la différence. Et je serais pas étonné qu'il soit un acteur très, très, très décisif et très...
Il le faut.
...pondérant pour cette demi-finale retour si le Real Madrid passe.
Mais justement, donc là, quand on voit ce match aller et qu'on envisage justement le match retour, sachant qu'il y a peut-être un match du titre à gérer, j'allais dire, ce week-end, justement, donc avec le match de Liga... qui a lieu contre Cadix à 16h15 où une victoire du Real permettrait donc le titre de champion de façon quasi officielle. Je crois qu'il manque plus que 3 ou 4 points, hein, donc pour...
Oui, je crois qu'il manque 4 points, je crois.
4 points, donc c'est-à-dire qu'en fait, ouais, le Real ne serait pas champion automatiquement en cas de victoire, ouais, contre Cadix.
Peut-être il aurait fallu que le Barça perde son match face à Valence hier.
Ouais, face à Valence, ouais. Le 4-2, là.
C'est ça.
Donc là, du coup, c'est-à-dire que là, il faudra donc toujours rester concerné. Enfin, je pense qu'il y a de quoi faire tourner.
Excuse-moi, Gilles. En fait, c'est quoi? C'est si le Real gagne et que le Barça perd, le Real est quasiment, ouais, on va dire, à 9 orteils sur 10.
Déjà, sachant qu'il en a déjà 8.
Sachant qu'il en a déjà 8. Je peux dire ça comme ça, ouais, c'est ça.
Mais voilà, mais justement, donc en prévision de ça, donc je pense qu'il y aura toujours de la rotation qui va être prévue contre cette équipe de Cadix. Le match retour contre le Bayern, comment il faut l'aborder pour justement, donc c'est vrai, Johan disait tout à l'heure qu'il faut le gagner. J'allais dire que ça, c'est quelque chose qui devient évident dans le football actuel. Mais surtout dans les intentions et dans le contenu, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Real Madrid puisse assurer une énième finale de Ligue des Champions et aller à Wembley?
Les détruire dans l'intensité. Excuse-moi, Damas.
Non, c'est bien, et c'est même très bien que tu parles de l'intensité parce que Carvajal revient.
Oui, entre autres, oui, tout à fait.
Je pense que vraiment, c'est mettre une intensité dès les premières minutes. Je pense que en fait, il ne faudra pas, même si c'est vrai que j'aime bien faire des références justement historiques un petit peu, je pense que contrairement à ce qu'on a fait en 2012, je pense que l'intensité, il faudra la mettre dans, allez, peut-être sur 60 minutes, je pense, l'intensité, il faudra la mettre. Au moins sur 60 minutes. Mais vraiment une grosse intensité visant à détruire ce Bayern de Munich le plus rapidement possible. Parce que ce Bayern est fragile psychologiquement, je pense, au vu de la saison très éreintante qu'elle a eue. Et je pense qu'il faut leur laisser aucun espoir de pouvoir se qualifier. Donc je pense qu'il faut une victoire autoritaire. Et je pense qu'avec une victoire autoritaire, on lance aussi une... Bon, même si c'est vrai que sans une victoire autoritaire, on sait très bien qu'en finale, le Real Madrid sera concentré au maximum. Mais je pense que si on gagne avec une victoire autoritaire face au Bayern, je pense qu'on lance un message au prochain finaliste, quelle que soit son identité. Et voilà. Donc je pense que vraiment la clé, ce sera l'entame de match autoritaire. Il ne faut absolument pas qu'on soit aussi laxiste et aussi dilettant dans les premières minutes tel que ça a été le cas sur ce match aller.
Et en plus, pour suivre tes propos, Johan, c'est que, en plus de cette intensité immédiate à positionner de la part du Real Madrid, je considère que c'est important quand même que les choses se passent avec ce type de scénario-là. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire certes à un Bayern qui est faible, mais ça reste le nom Bayern Munich. Et comme vous savez, chaque nom repose un état d'esprit qui est rattaché à ce club. On a quand même des joueurs dans cette équipe du Bayern Munich qui ont un certain niveau. Il y a des individualités qui sont quand même là, c'est vrai. Et avec un Real qui peut des fois avoir des moments assez faibles, des temps assez faibles, eh ben, ce Bayern peut se servir à la rigueur de ces périodes à temps faible pour pouvoir estimer, de se dire qu'il y a la place pour pouvoir passer. Et il y a des joueurs qui peuvent faire preuve de moments de virtuose et être dangereux comme ça a été, par exemple, le cas pour le Roi Sané ce soir. Donc, pour éviter à ce que ce Bayern puisse se dire « Ah, là, on a affaire à Real qui est hésitant ce soir, donc on peut se permettre de... » Et d'ailleurs, je pense que Thomas Müller va être très important dans ce type d'état d'esprit dont je parle pour le Bayern de Munich. Vaut mieux éviter tout ce genre de scénario que je dirais dans les pensées. Donc, vaut mieux pour le Real Madrid d'être très ferme au match retour en question. Il est important qu'un champion comme Carvajal soit présent parce que ça reste quand même un leader sur sa présence. Et en termes d'intensité, de marquer rapidement son territoire. Ce soir, par exemple, Jordan Musiala s'est quand même allé assez exprimé. Il faut mettre les choses dans l'ordre.
Jamal.
Ah, pardon, ouais, Jordan. Oh, pardon, tu sais, là... Enfin bref.
Jordan Veretout, Jamal Musiala. Voilà.
Ah, voilà.
Merci. Jamal Veretout.
Bah, peut-être vu sa femme. Enfin bref. Donc, pour terminer en effet cet aparté, il faut en effet que le Real soit souverain. Ils l'ont déjà prouvé et c'est le moment encore à nouveau de le produire.
Bah, ça va être le propre hein, de cette rencontre retour hein, au Bernabeu. On nous avait promis un mur rouge du côté de la Lanza Arena sur ce match donc à Munich, mais on a plus vu une ambiance. Après, il y avait un très beau tifo hein, qui est en hommage à Franz Beckenbauer, le Kaiser, mais on était quand même dans une ambiance de messe. Hein,
c'était pas l'Allianz Arena. Chaud qu'on a pu connaître hein, dans le passé.
Voilà, effectivement, donc comme si voilà, donc il y avait donc un changement d'ambiance aussi du côté du Bayern, mais en tout cas voilà, on aura l'occasion donc d'avoir un Santiago Bernabéu, on va dire chauffé à blanc, qui permettra donc de pouvoir, on va dire montrer une grande ambiance européenne. C'est un avantage. Certains de pouvoir recevoir à domicile, même si on a vu que sur les années précédentes, on a pu avoir des frayeurs sur les matchs retour.
Ouais, peiné, hein, peiné.
Ouais, mais justement, sur les matchs retour, sur les années précédentes, je pense notamment à Chelsea, c'est parce que je pense que l'handicap, entre guillemets, qu'on a eu, c'est qu'on a battu Chelsea assez aisément à Stamford Bridge. Et il y a eu cette dilettance justement au match retour et cette combinée justement avec cette détermination au joueur de Chelsea d'aller chercher un résultat au Santiago Bernabéu fait qu'on a lutté. Hein. Je pense que c'est ça le problème. Après, bon, Manchester City en 2022 était beaucoup plus, je pense, plus fort que nous intrinsèquement, on va dire ça comme ça. Et même dans un ensemble de choses, City était meilleur que nous. Et après, voilà, c'est l'âme qu'a Real Madrid, l'âme du Santiago Bernabéu. Qui fait qu'on les sort. Donc, moi, je pense, c'est pour ça qu'en fait, pour moi, le match nul, c'est un match qui, pour moi, le match nul qu'on a fait à l'Allianz Arena, c'est, je pense que c'est le résultat qui est bon parce que ça nous permettra d'entamer le match justement avec une philosophie, on va dire, de gagnant qui sera beaucoup plus élevé que si l'on avait gagné ce match aller, en fait. Je pense que c'est ça qui va faire la différence.
Parce que le Real Madrid doit être constamment mis sous pression pour pouvoir être bon.
Malheureusement, le Real Madrid, c'est cet élève qui a beaucoup de facilité et qui parfois ne fout rien du tout lors de toute l'année. Et puis quand il y a les résultats, on voit qu'il a son bac avec mention. Voilà.
Mais c'est l'élève. C'est, en plus de ce que tu dis, c'est l'élève qui, par exemple, sur trois questions dans un grand contrôle, il y a une question qui est extrêmement difficile à répondre. Tout le monde dans la classe va louper, mais il va voir 4 sur 4 sur cette question-là, alors que les autres vont avoir 0,5 au maximum, 1,2. Il n'y a que le Real Madrid pour produire du 4 sur 4 sur cette question clé.
Et sur deux vrais ou faux, ben il va faire deux mauvaises réponses. Mais il arrivera quand même à avoir la moyenne.
Voilà, exactement.
Justement, c'est pour ça que pour certains joueurs, certaines équipes, certains championnats, il y a il y a ce qu'on appelle les grands contrôles, il y a aussi les devoirs maison. Donc, il faut vraiment prendre en compte cela pour juger les performances des uns et des autres.
Mais Gilles, tu lâches rien.
C'est pas possible.
Mais Gilles, tu lâches rien.
Dites-le que vous ne voulez pas du joueur du PSG au Real Madrid la saison prochaine. Dites-le, monsieur Gilles-Christ, dites-le.
Je me focalise sur mon équipe jusqu'à la fin de la saison. j'ai la ferme intention que cette saison se termine le 1er juin à Wembley. Donc, le 2 juin, on aura l'occasion de pouvoir discuter d'autres choses.
On reparler.
Ah, clairement. Non, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Hein, c'est
un bon petit tour.
Un bon petit tour autour des 90 minutes autour de cette rencontre.
Un petit peu déçu quand même de la configuration d'avoir mis Camavinga sur le banc. Hein, voilà.
Ouais, justement parce qu'il fallait qu'il fallait que ce soit Nacho qui se sacrifie parce que Nacho a été à la hauteur donc de
il était propre.
Mais Tchouaméni par contre au milieu de terrain c'était pas bon du tout Tchouaméni, moi je trouve au milieu de terrain. Tout à l'heure je voulais répondre à votre question quand vous avez dit qu'est-ce qu'il faut choisir entre si on met Camavinga au milieu de terrain, on met Camavinga, Tchouaméni et qui d'autre au milieu de terrain. Mais je pense que Kroos est dans une dynamique qui fait qu'on ne peut pas le sortir.
Ouais, il est intéressant.
Valverde est super important dans tout ce qui est intensité des courses, intensité de l'impact, etc. Et je pense qu'en fait, Tchouaméni, j'ai bien peur pour lui qu'il soit devenu meilleur dans un poste de défenseur central plutôt qu'au milieu de terrain. Surtout vu le rôle qu'il a dans ce milieu de terrain-là. Moi, comme je l'ai toujours dit, Tchouaméni, je devant la défense, pour moi, c'est du gâchis que Deschamps a initié, je pense, avec l'équipe de France et que
c'est un vrai 8, Tchouaméni.
Mais après, les grands joueurs doivent se sortir de ça, comme Kanté a su le faire en équipe de France aussi.
C'est vrai. Non, c'est juste, c'est très juste. Mais comme je dis, je pense que Camavinga doit avoir une place beaucoup plus importante au milieu de terrain. Et que Tchouaméni, il faudra réfléchir à son futur à ce niveau-là, soit au milieu de terrain, soit en défense centrale, soit en dehors du club.
Oh d'accord, oula, c'est assez radical.
Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que, comme j'ai dit, Tchouaméni, quand il est au milieu de terrain, je trouve que ses prestations ne sont pas exceptionnelles, ne sont pas à la hauteur des attentes, parce que Tchouaméni, c'est quand même sa deuxième saison. Et que quand on voit justement le nombre de ballons qu'il perd au milieu de terrain, comme aujourd'hui, non, je suis désolé.
J'allais dire qu'il débute à ce niveau-là. Non, il y a les saisons passées, mais disons que c'est quand même des demi-finales de Coupe d'Europe, ça impressionne son homme, quand même.
Hey, il est finaliste de Coupe du Monde, Tchouaméni.
Et quelle finale ?
Et quelle finale ?
Enfin, quand je dis quelle finale, parce que je prends la prestation dans son ensemble. Bon, disons que je pense que c'est quelqu'un qui va aux toilettes avant d'aller sur les rencontres et que s'il ne s'est pas totalement vidé, ça se voit sur le terrain.
Moi, je pense vraiment que Tchouaméni, au milieu de terrain, je pense qu'il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir pour le futur. Je pense que...
Parce qu'il faudrait le mettre en défense centrale, par exemple, sur le match retour.
J'ai bien peur que oui. J'ai bien peur que oui. J'ai bien peur qu'il faille mettre Tchouaméni en défense centrale lors du match retour. À la place de qui, je ne sais pas, parce que Nacho, comme vous l'avez dit, n'a pas été mauvais, mais moi, je l'ai pas non plus trouvé excellent non plus. Je pense que Rudiger s'est imposé comme un titulaire en puissance, et je pense qu'il sera titulaire jusqu'à la fin de la saison. Mais Tchouaméni, au milieu de terrain, je reste quand même, ça me laisse perplexe. Ça me laisse perplexe.
D'accord, mais en tout cas, voilà, on veut le retour de Camavinga au milieu, et surtout qu'il impose le tempo qu'il a su mettre il y a 2 ans contre City quand il est rentré en jeu, et qu'il a su mettre régulièrement quand il rentrait en Ligue des Champions il y a 2 ans. Mais qu'il le fasse maintenant en tant que titulaire. Hein.
C'est, exactement.
C'est l'idée, effectivement. Donc, il y aura un podcast qui aura lieu justement, donc, juste après le match contre Cadiz, pour pouvoir préparer le grand match qui doit être décisif sur cette Ligue des Champions sur la route de Wembley. Messieurs, merci beaucoup pour ce temps consacré, hein, c'est un peu plus d'une heure aujourd'hui, hein, pour cet épisode. Ah oui, j'allais dire que là, en plus, avec la fête du travail, ben voilà, tout le monde est... ne va pas travailler en ce premier mai. On vous laisse profiter tranquillement de ce jour férié. Ben voilà, mais on se retrouve sous peu pour un prochain épisode. Et en attendant, bien évidemment, avec impatience, le match retour. D'ici là, portez-vous bien. Et bien évidemment, comme toujours, à la Madrid.
À la Madrid.